Des averses sur le Massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du Nord, beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour, Gaël est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 284 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une émission politique, puisque nous recevons un des 65 élus du conseil municipal de Nantes, Pierre-Emmanuel Marais. Pierre-Emmanuel Marais, bonjour.
Des maths, bonjour.
Monara.
Matré.
Pierre-Emmanuel, tu es conseiller municipal de Nantes à la diversité linguistique, pédagogique et culturelle et activité périscolaire. Alors, qu'est-ce que ça représente concrètement, cette délégation ?
Alors, à l'origine, lorsqu'on avait un peu négocié, est-ce que ça se négocie tout ça, les délégations ? Moi, je suis parent d'élèves d'Iwan, bretonnant, donc je voulais être un peu, beaucoup actif sur les questions de langue bretonne sur Nantes. Et on a trouvé intéressant d'élargir à la question des langues en général, au-delà de la langue bretonne. Donc je travaille beaucoup sur le maintien et le développement de la langue bretonne, et plus globalement, essayer de rendre plus visible la diversité linguistique sur Nantes, et puis par extension, les langues faisant partie, enfin étant vecteur de culture, la diversité culturelle.
Alors comment on la voit, la diversité linguistique sur Nantes ?
Comment on la voit ? On la voit peu, finalement. C'est souvent, à part le français, un peu d'anglais, les langues, elles sont parlées chez soi. Donc, ce que nous, on trouve intéressant, c'est de la montrer. Et on a un exemple qui est tout récent, là, puisque à la mi-janvier, on a inauguré la première plaque bilingue français-breton rue du Château, Strenard-Restel. Et c'est un exemple assez évident de montrer cette diversité linguistique. Après, elle existe dans le cadre des écoles, par exemple, les écoles d'Iwan ou d'Uyez, ou enfin toutes les écoles français-breton, il y a quelques crèches qui font aussi de l'allemand ou de l'anglais. Enfin, là, cette diversité existe, et puis elle existe aussi dans nos villes, avec des gens qui sont venus de partout et qui parlent leur langue. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça puisse être bien vécu, transmis et vécu harmonieusement.
Quoi. Donc cette plaque Strenard-Restel, la rue du Château, donc c'est la rue qui mène au château. Donc il y a, je crois, 4 plaques actuellement dans cette rue. C'est une rue qui n'est pas très longue. Et donc, il y aura d'autres plaques après, ou il y aura seulement une plaque repérable ?
Alors, il y aura d'autres plaques, puisque le projet, c'est de faire tout le quartier historique, Bouffay jusqu'à la préfecture, que tout ce quartier ait des plaques bilingues. Sur un critère un peu évident de place de la langue bretonne, puisqu'à Nantes, on a toujours parlé breton, alors de façon minoritaire la plupart du temps et peu visible, mais la langue bretonne a toujours été présente. Et donc, l'idée, c'est de lui donner encore un peu plus de visibilité. Donc ça, c'est la première partie de notre plan de développement. Et la deuxième partie, c'est ce que moi j'ai appelé le critère d'usage, c'est-à-dire que cette langue bretonne, elle est parlée à Nantes, notamment par des enfants, et c'est de mettre des plaques bilingues autour des écoles où le breton est enseigné avec le français.
Pour qu'ils se disent, tiens, ça m'amène à mon école et c'est pas par hasard que j'apprends le breton.
C'est pour que ça prenne sens, que ce soit dans l'espace public. C'est pas simplement la langue de l'école, c'est pas simplement la langue des bouquins qui sont vus à l'école. C'est aussi dans l'espace public, c'est aussi dans la vie. Et les rues font partie de la vie du quotidien pour les enfants comme pour leurs parents.
Alors, chaque fois que j'invite des gens dans cette émission et qu'ils n'ont pas à parler de leurs chansons à eux ou à parler des festivals de musique qu'ils organisent, je leur dis, ça serait bien que tu choisisses, parce que je tutoie souvent les invités aussi, parce qu'en fait, on vit dans un monde où tout le monde se connaît. C'est comme à la télé à Paris et tout ça, ils se disent vous, mais ils se connaissent en vrai, donc pourquoi le cacher à l'antenne ? Donc, à ces gens-là, je dis, est-ce que tu pourrais choisir des disques que tu as envie de présenter ce jour-là? Et le premier disque que tu as choisi, ça doit être pour la diversité linguistique, parce que c'est en français, mais un français un peu particulier.
Alors c'est un groupe québécois, c'est Cowboy Fringant. Et la petite histoire, c'est que on fait de l'échange de maison l'été. Enfin là, c'est une façon de vivre les vacances un petit peu différemment. Et je suis allé une fois au Québec. J'ai gardé les contacts avec un voisin qui est devenu un copain et qui m'a parlé de musique et tout ça. Et notamment, c'était un grand fan des Cowboys Fringants et je suis revenu avec un disque. Donc c'est ça.
Les étoiles filantes, les Cowboys Fringants.
je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Les Cowboys fringants, donc choisis par notre invité du jour, Pierre-Emmanuel Marais, avec qui nous parlons politique et du rôle et des missions d'un conseiller municipal à Nantes, puisque Pierre-Emmanuel, tu es conseiller municipal. On a parlé de diversité linguistique, donc c'est vrai que tu as mis en valeur la langue bretonne, parce que c'est une langue que tu parles, mais est-ce qu'il y a d'autres projets ou des choses qui ont déjà été faites qu'on n'a pas vues pour parler des langues sur Nantes ou pour montrer qu'il y a des dizaines de langues parlées à Nantes?
Alors, au-delà des autres langues qui sont parlées à Nantes, il y a eu un travail du Conseil de développement sur la question du développement des langues au niveau de Nantes Métropole, qui, j'espère, pourra un jour se concrétiser en plan d'action. Pour l'instant, c'est en réflexion. C'est pas un dossier, mais il y a une structure qui s'est ouverte à Saint-Herblain, qui rayonne sur l'ensemble de l'agglomération, qui est Yézou à Sévenedur, langue et culture, et c'est un déménagement en fait, mais qui a ouvert concrètement en septembre, qui accueille le collège d'Iwan, une école d'Iwan, une crèche bilingue, et qui est un peu le bateau amiral, on va dire, de la culture et la langue bretonne sur Nantes, qui lui donne aussi de la visibilité et qui va permettre de croiser un certain nombre de projets. Donc c'est ce genre de dossier. Alors tu parlais concrètement de comment on fait de la politique, c'est aussi essayer d'agir pour accompagner ces projets, pour faire qu'ils ne s'enlisent pas, que les promesses qui ont été faites pendant la campagne, elles deviennent concrètement des actes en tant que tels. Donc c'est aussi ça, faire de la politique.
Parce que tu es aussi conseiller métropolitain. Alors tous les conseillers municipaux ne sont pas des conseillers métropolitains de Nantes Métropole, mais donc tu as dit tout à l'heure, on a discuté avant de se présenter, et donc je suppose que tu voulais être conseiller métropolitain, c'est pour ça que tu l'es. Mais ça sert à quoi, un conseiller métropolitain? Alors, si tu peux me permettre.
C'est une question de répartition des compétences. Il y a un certain nombre de compétences qui sont au niveau communal, et de plus en plus, notamment depuis les lois MAPTAM et NOTRe, il y a des compétences qui sont exercées au niveau métropolitain, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de l'agglomération, comme par exemple les transports, comme un certain nombre de compétences diverses et variées. Et donc, moi, je n'ai pas de délégation au niveau de Nantes Métropole, donc je n'agis pas spécialement sur des budgets ou des choses comme ça.
Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a régulièrement des réunions en général, on voit des photos dans le journal ou des images qui passent à la télé. Donc tu fais quoi? Tu vas à une réunion une fois tous les deux mois ou tous les mois?
À quelques réunions, on essaye évidemment de se tenir au courant, on débat, on discute sur des votes de politique qui sont faits lors du conseil métropolitain. Et voilà, je fais partie d'un groupe, politique qui est la majorité de Johanna Roland, et on accompagne ces politiques publiques.
Donc dans les politiques publiques, il y a ce qui s'appelle maintenant les activités périscolaires. Donc c'est l'une de tes délégations. Et donc quand on est élu aux activités périscolaires, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les enfants jouer?
Alors c'est une délégation que j'ai à la ville de Nantes, sur l'animation périscolaire. Parce qu'en fait, le budget du périscolaire dépend largement de l'adjointe à l'éducation, parce que c'est dans le cadre de la politique de l'éducation. Concrètement, ça veut dire être en relation avec Nantes Action Périscolaire, qui est l'association qui s'occupe concrètement du périscolaire. Ça veut dire visiter régulièrement des écoles pour voir comment sont organisées les équipes périscolaires, les temps périscolaires, de faire remonter un certain nombre de questions que peut avoir les personnels ou que peut avoir cette association, de siéger au conseil d'administration de Nantes Action Périscolaire, qui décide des grandes orientations de cette association, qui a le marché public du périscolaire, et qui représente aujourd'hui, c'est environ 11 millions de budget sur l'année, c'est environ 300 salariés, alors pas en ETP, c'est-à-dire pas en équivalent temps plein, mais c'est une grosse structure qui organise sur les écoles publiques tous les temps du périscolaire, du matin, du midi et du soir.
Donc quand on se retrouve au périscolaire, c'est que c'est parce qu'on en a eu aussi envie, ou parce qu'on dit les politiques se retrouvent à s'occuper de choses qu'ils ne connaissaient pas? C'était un sujet que tu connaissais déjà avant, tout l'environnement, on va dire, scolaire et périscolaire?
Pas du tout. Non, c'est vraiment sur la question de la diversité linguistique, c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler. Notamment, enfin, on a parlé des plaques bilingues, mais un certain nombre de. Un troisième site pour une école bilingue français-breton. Voilà, un certain nombre de choses qu'on portait politiquement. Sur le périscolaire, pas du tout. Ça m'a été proposé. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc, je découvre. Comme par exemple, on m'a demandé de m'occuper un petit peu des classes découvertes. Donc, de faire. De suivre ce dossier pour en lien avec l'adjointe à l'éducation, Myriam Naël. Donc, non, c'est des propositions et c'est une découverte, mais c'est très intéressant en termes de politique publique.
Je t'ai présenté comme un homme politique au début, c'est vrai, parce que tu as été élu, tu es membre d'un parti politique, donc je pense depuis le début de l'émission, on n'a pas donné le nom, donc je crois que c'est assez facile de deviner que tu es membre de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, et c'est un engagement ancien, enfin je veux dire, dès que tu avais l'âge, je sais pas, de 15 ans, tu voulais faire de la politique, ou c'est venu en vivant au quotidien?
Alors moi, je ne me considère pas comme un homme politique, déjà. J'ai un mandat, mais...
Quand on est élu, on est un homme politique.
Oui, enfin, non, mais... Voilà, je pense que tout le monde... Enfin, la politique est partout, tout le monde fait de la politique. J'ai un mandat, donc à ce titre-là, il y a un côté politique. Après, je travaille, j'ai une vie de famille, enfin, etc. Et puis, donc, je suis membre de l'Union démocratique bretonne. J'ai adhéré en 2000, et qu'un parti de gauche, écologiste et... régionaliste ou fédéraliste, enfin régionaliste et fédéraliste, et donc non, c'est quelque chose qui vient progressivement, enfin, et puis à un moment, à force de râler dans les repas de famille ou d'échanger avec des amis, on se dit ce serait bien de s'engager et puis de faire concrètement des choses. Donc après l'adhésion, j'ai milité au sein du DB, et puis lorsqu'il y a eu à nouveau les élections municipales, eh bien le parti a décidé qu'on serait deux, enfin on était quatre en fait, mais deux qui potentiellement pouvaient être élus, Sonia Méziane et moi, qui sommes devenus conseillers municipaux.
Donc ça voilà. ne t'empêche pas de continuer à écouter de la musique. Ouais. Tu m'as apporté là un groupe que je ne connais absolument pas, Gaël, qui assure les programmes d'Alternante FM côté musical et qui est à la technique de cette émission, eh bien, était très content de voir ce disque. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce groupe, qui en plus s'appelle Bruit Noir. Donc c'est...
Bruit Noir, c'est un groupe autour d'un chanteur, le chanteur de Mendelssohn, qui s'appelle Pascal Boisis. Et donc, c'est plus du slam ou de la poésie, comme ça, un peu décalé, très noir, avec une basse batterie derrière qui est... Moi, j'aime bien, mais c'est Joy Division,
ça
je crois.
Le ça doit être très noir, parce que le titre du morceau, noir. C'est Joy Division.
Qui disparaissent. Je suis dans le 13e appartement. Le 13e appartement dans lequel j'aurais vécu. On entend un mec qui doit tondre la pelouse ou nettoyer un mur au Karcher, j'en sais rien. Quand j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris, au lycée, et j'ai entendu ce son de batterie pour la première fois. Joy Division. Heart and soul. Heart and soul. Combien de fois j'ai écouté ce disque dans les 13 appartements où j'ai vécu. Heart and soul. One will burn. Heart and soul, one will burn. À la fac, plus tard, Bertrand m'a prêté un livre avec les paroles de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Le drame de Ian Curtis, c'est pas tellement qu'il ait été malheureux, c'est normal. Ce qui est surprenant, ce qui est vraiment triste, c'est qu'il ait été entouré d'abrutis toute sa vie. C'est miraculeux qu'il ait pu faire quelque chose. C'est miraculeux d'arriver jamais à faire quoi que ce soit. On est tellement, tout le temps, entouré d'abrutis. Le livre que m'avait prêté Bertrand, c'était une édition italienne des paroles de Ian Curtis, avec d'un côté les paroles en anglais et de l'autre en italien. Du coup aussi, peut-être à cause des divisions de la joie et aussi du suicide bien sûr. Depuis ce moment-là, Joy Division est associé pour moi à Primo Levi, Atrocity Exhibition, Heart and Soul, One. City Exhibition. This is the way. Step inside. This is the way. Step inside. This is the way. Moi, à bientôt 43 ans. Sans bientôt plus de gencives. Peut-être que je vais perdre mes dents comme Welbeck sur les photos dans Rock and Folk. Quelle horreur la vieillesse. Quelle horreur la vieillesse. Peut-être que je vais perdre mon cerveau comme Lou Reed avec Metallica. Quelle horreur la vieillesse. Au moins, Ian Curtis n'a jamais perdu ses dents. Au moins, Ian Curtis n'a jamais fait de musique avec Metallica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heart and soul. Presque tout le monde a brûlé dans les divisions de la joie et dans les camps. Sauf Primo Levi et mon grand-père. Et Imre Kertész et Jean Améry. On peut avoir d'autres soucis que des dents qui vont partir. On peut avoir d'autres soucis comme des gens comme Ian Curtis ou Primo Levi ou des gens qui font leurs courses comme ça par hasard dans une épicerie. On peut avoir d'autres soucis. C'est pas tellement triste qu'il ait été triste, c'est tellement triste qu'il ait été entouré d'abrutis. C'est pas tellement triste qu'on soit tellement triste, c'est tellement triste qu'on soit entouré d'abrutis. On est tellement entouré d'abrutis. On devrait supprimer tous les abrutis. On garderait Ian Curtis, Primo Levi, Imre Kertész et moi. Par exemple, puis Bertrand. Faudrait que je lui rende son livre.
C'est un plaisir de demander aux invités de cette émission de choisir les titres, de me faire découvrir des morceaux que j'ai jamais entendus de ma vie. Donc c'est Bruit Noir, le groupe Joy Division, choisi par notre invité aujourd'hui, Pierre-Emmanuel Marais. Donc tu es conseiller municipal de Nantes à la diversité linguistique et tu as choisi ce morceau qui est une œuvre poétique. Je pense aussi c'est peut-être ton côté écrivain et auteur de plusieurs romans en français ou en breton qui te fait écouter ces morceaux-là ou...
Je sais pas. Enfin, après, moi, j'aimais bien Joy Division quand j'étais plus jeune. Donc, c'est comme ça que j'étais tombé sur ce groupe. Et voilà, c'est après.
Donc là, on va écouter à mes auditeurs une chanson en breton quand on va se quitter, mais pas tout de suite encore. Le breton, quand même, tu parles breton, tu écris en breton, tout le monde n'écrit pas des romans en breton comme tu l'as fait. Et c'est bien de dire aussi que dans peu de temps, il y aura le mois du breton et du gallo à Nantes et en Loire-Atlantique, et même sur toute la Bretagne, ce sera tout le mois de mars. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui se rejoignent pour toi. Tu t'investis pour la langue bretonne au niveau municipal, tu écris en breton, il y a un lien.
Ah oui, forcément. Enfin, l'idée, c'est aussi de porter ça. Enfin, je pense que c'est important. Il y a ce qu'on appelle le mouvement breton, c'est-à-dire qui agit dans les associations, dans les écoles, etc. Et puis, c'est important d'être aussi dans la vie politique, de s'engager et d'être présent au sein des institutions, dans des équipes, on va dire, plurielles, comme l'époque de la gauche plurielle du temps de Jospin, c'est-à-dire les gauches, quoi, les gauches qui se rejoignent sur un certain nombre de points communs et de politiques qui sont portées et qui mettent notamment en avant la diversité linguistique, ça me semble important. Ouais.
Alors c'est pour ça que tu es allé visiter Cardiff, parce que Cardiff est une ville comparable à Nantes, puisque c'est la capitale du Pays de Galles et que Nantes est la capitale de la Bretagne, bien entendu. C'est une ville bilingue, puisqu'on y parle gallois et anglais, et donc tu as voulu chercher un exemple à Cardiff ?
Alors en fait, c'était en essayant de travailler, en tout cas d'accompagner le développement de Jésus à Sévenadur au niveau de la mairie, c'est-à-dire de faire en sorte que le dossier avance, enfin en Nantes Métropole et puis avec les différents partenaires institutionnels. On a eu l'information qu'il y avait un centre culturel gallois, pas forcément de la même façon que Jésus à Sévenadur, mais en tout cas une structure qui ouvrait en mars 2016. Et en étant en contact avec eux, ils nous ont invités à aller voir comment ça se passait. Et ça a été une vraie découverte là-bas de Cardiff, de cette ville ouvrière, ouvrière comme l'a été Nantes, portuaire, avec cette histoire très particulière de chantier naval. Et puis une ville bilingue où le gallois est beaucoup plus développé à Cardiff qu'à Nantes, mais qui essaye de promouvoir cette diversité linguistique au sein de la capitale du Pays de Galles. Et ça a été une vraie belle découverte d'une structure très ouverte sur la ville, d'une structure très accueillante, qui est à la fois vecteur d'attractivité, c'est-à-dire que les touristes peuvent rentrer dans cette structure, et puis qui fédère toutes les associations, tous les gens qui militent qui milite autour de la langue galloise. Donc c'était une belle rencontre et on espère qu'avant l'été ou peut-être à l'automne, on va voir, mais que des représentants de Cardiff viendront à Nantes et puis tout ça participe de faire vivre le jumelage entre Nantes et Cardiff, qui est le plus vieux jumelage de Nantes avec une ville européenne et qui vit parce qu'il y a des associations comme Elanc qui font des échanges réguliers entre Nantes et Cardiff, mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus ambitieux.
Bon, bah, l'ambition aussi, je pense que vous en avez à l'UDB parce que vous avez un candidat à l'élection présidentielle et ça, faut vraiment en vouloir. Il y a beaucoup de gens qui veulent être président. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais c'est la République française hein, dont je parle. Et donc, toi, tu es investi aussi. On a parlé beaucoup de la ville de Nantes, mais donc tu es membre de l'UDB. Tu es investi dans la campagne de Christian Troadec ou...
Évidemment, parce que l'UDB fait partie du mouvement Oui la Bretagne avec Christian Troadec, qui a pour volonté de présenter un candidat régionaliste, fédéraliste aux élections présidentielles, avec les difficultés institutionnelles des 500 parrainages, qui sont pour l'instant pas atteints, et j'espère qu'ils seront atteints, mais voilà, il faut aussi être réaliste. Je pense que ce sera malheureusement difficile et je pense que c'est assez terrible que cette élection présidentielle soit aussi verrouillée et qu'on ne puisse pas présenter d'autres projets que des projets que j'appelle globalement jacobins, enfin, où la centralisation de la France ne pose pas de problème, où la place des territoires et leur vitalité n'est jamais questionnée. Et où finalement, nous, ici en Bretagne, en Occitanie ou dans d'autres régions de France, quelles qu'elles soient, on a l'impression d'être un peu laissé pour compte par rapport à certaines politiques publiques, notamment les politiques culturelles.
Bon, eh bien, quelle conclusion pour cette émission. On va se quitter avec l'un des artistes les plus brillants de la langue bretonne depuis depuis 20 ans à peu près. C'est Dénès Prigent. Tu as choisi un titre en breton quand même de Dénès Prigent. Et c'est un extrait d'un de ses plus beaux albums, je crois. Mais tu l'as pris quand même un morceau avec des chanteuses bulgares.
Oui, ouais, j'aime bien ce morceau. Kopsamika, oui.
Bon, eh bien, merci de nous avoir rendu visite, Pierre-Emmanuel. Puis à bientôt, certainement, sur les ondes d'Alternante FM. Kenavo, amis auditeurs.
Kenavo. Armenes ars perdi antie iandawern di andremu uive a calo Hey!
oiseaux, c'est ni la ronde.